Aujourd'hui, c'est une amie fidèle, très fidèle, de notre université du temps libre que nous recevons pour la 5e fois. Alors, je me souviens qu'elle nous avait enchantés avec Apollinaire. Elle nous avait expliqué les métamorphoses d'Ovide, ainsi que le mythe d'Orphée 2 ans après. Et en 2019, elle avait sauté plusieurs siècles pour évoquer avec nous les Rougon-Macquart. Avec Émile Zola, on se souvient très bien de cette conférence. Aujourd'hui, c'est Baudelaire. Alors, tu vas sûrement nous expliquer, Marie-Christine, pourquoi tu t'es passionnée pour Baudelaire. Je me souviens quand même que tu nous avais dit, sur ma table de nuit, j'ai 2 livres. Et je suis, il y en a qui s'en souviennent, hein. Sur ma table de nuit, j'ai 2 amoureux. Ceux-là, j'en suis sûre, ils m'ont pas fait de crasse. C'est ce que tu avais dit. À gauche, j'ai Apollinaire. La table de nuit de gauche. Sur la table de nuit de droite, c'est Baudelaire. Alors, on attendait Baudelaire, et voilà, Baudelaire est arrivé. Et donc, aujourd'hui, nous allons t'écouter avec beaucoup d'attention. Merci d'être là. Ah oui, 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 oui. Ce que je disais traditionnellement et que Claude me rappelle, s'il vous plaît, imposez silence à vos portables.
Chers amis sarladés, puisque vous êtes devenus de véritables amis, nous avons 5 fois partagé des choses essentielles, sacrées des liens. J'avais hâte de vous revoir parce que les 2 années qui viennent de s'écouler ont été pleines de solitude, de doutes, et que c'est un grand plaisir, un bonheur de vous revoir, comme on dit, en présentiel. Certes, j'ai eu l'occasion de faire en 2 ans beaucoup d'audio-visio, que j'appelais au-dedans de moi des idiot-visions, because on ne voit pas les potes, on ne voit pas leur regard, et puis on se retire sans applaudissements, hop, ça tombe comme une guillotine, le truc, on rentre chez soi en se demandant si oui ou non. Bon, et puis, il faut que je vous le dise, outre l'immense plaisir de retrouver mes deux amis et d'autres, j'avais une hâte qui tournait vraiment à l'impatience. Je pensais à Michel. Et toute cellette entre mon chat comme Baudelaire et ma pipe, disons mon cigare comme Baudelaire, je me disais quand cet homme merveilleux va-t-il à nouveau fourrager dans mon corsage pour y installer, voilà. Et tout à l'heure, pendant, il a pris un certain temps d'ailleurs, pour ne pas dire un temps certain. Et tout à l'heure, je lui fredonnais « Déshabillez-moi ». Et j'ai fini par « Et vous ? Déshabillez-vous ». Bon, allez, trêve de plaisanterie. Parlons de Charles Baudelaire, qu'en effet, j'aime Charles Baudelaire avec ferveur depuis l'âge de 16 ans où, étant une petite jeune fille de seconde qui n'avait pas de livres à la maison parce qu'il n'y avait pas beaucoup de thunes, pour tout dire, à la fameuse remise des prix de fin d'année, j'ai eu le bonheur de recevoir un livre que je ne connaissais ni de, ni des lèvres ni des dents, et qui étaient les fleurs du mal de Charles Baudelaire, qui ont occupé vraiment tout l'été en attendant l'entrée en classe de première. Autant dire que c'est mon éternel fiancé, et que des fois, Apollinaire trouve que... Bien, allons-y. Charles Baudelaire, donc. C'est un personnage totalement atypique, et il faut le dire, c'est un véritable phare, comme il l'a dit dans certains de ses poèmes en parlant de nos grands peintres, des grands peintres européens, disons. C'est un phare. Et c'est un homme qui m'a toujours émue, ça va ? Par la douleur, en fait, qui l'habite depuis les commencements. C'est pas bizarre, un peu ?
C'est parce que tu bouges, peut-être. Alors bouge,
il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle bouge. Allez. Alors je bouge ou je bouge pas ? Le cinéaste, Alain. Bon. Alors, Alain, tiens-toi bien. Oui, ce qui m'a toujours vraiment bouleversée chez lui, c'était la douleur. Et cette douleur, elle s'explique. Resituons brièvement sa vie. J'en parlerai plus longuement tout à l'heure en me servant de certains poèmes. Baudelaire, vous le savez, si nous en parlons cette année, c'est parce que, en fait, il n'a pas eu droit à de grands, grands hommages, si on compare à Napoléon. Bon. Je ne veux rien dire sur Napoléon, je ne dis rien surtout, mais Charles, il y a eu tout un débat qui a occupé des semaines et des semaines sur Napoléon. Oui, mais Charles Baudelaire, qui était né en 1821 et dont nous célébrons les 200 ans de la naissance, j'ai quand même des vieux amants, on fait ce qu'on peut, et donc 200 ans qu'il est né. Baudelaire. Or, on en a entendu très, très peu parler. Alors, il y a certes Jean Tellet qui en a profité pour écrire « Crénom Baudelaire ». Hein ?
C'est du Jean Tellet.
Voilà. Oui. C'est du Jean Tellet. Hein ? On n'apprend pas forcément grand-chose sur Baudelaire, mais on continue à se dessiner Jean Tellet, mais un Jean Tellet un peu vieillissant et qui tourne un peu pipi-caca et qui s'est intéressé davantage à Baudelaire reniflant le pauvre drôle les culottes de sa mère ou manquant de se faire prendre par derrière par, le fameux voyage. « Oh, il était mignon, Baudelaire, nous dit Jean Tellet, tellement qu'il suscitait la concupiscence. » Oh, la concupiscence des matelots qui faisaient très attention à ses positions contre le bastingage. C'est du Jean Tellet, mais ça ne nous apprend pas tellement grand-chose sur la poésie et notre Charles Baudelaire. Alors, donc, il est né en 1821 à Paris et son papa, François Baudelaire, était un homme beaucoup, beaucoup plus âgé que sa maman, la très jolie Caroline, qui devait avoir une trentaine d'années de moins que le papa. Et ce qui devait arriver, c'est que le père François Baudelaire décède lorsque l'enfant a 6-7 ans. Et voilà que cet enfant, qui avait une adoration pour sa maman, se dit, il n'est pas trop atteint, son papa lui a donné le goût de la peinture, parce qu'il était peintre. J'ai eu l'occasion de voir au musée d'Alger des belles toiles de François Baudelaire. C'est ainsi qu'on peut expliquer que plus tard, Charles Baudelaire écrira pour les salons artistiques avec une compétence extrême. Dans l'histoire de notre littérature, c'est Diderot qui commence au XVIIIe siècle, hein, les écrivains qui deviennent commentateurs d'art. Diderot au XVIIIe, Charles Baudelaire au XIXe, Guillaume Apollinaire au XXe. Bon, voilà que donc mon petit Charles se retrouve tout seul avec maman. Oh, c'est chouette, elle est mignonne, maman, elle sent bon, elle sent bon. Et contrairement à ce que dit Gentelet, il n'y a pas que sa culotte à maman qui sent bon, il y a aussi les fourrures. C'est une femme très élégante, c'est une femme qui porte des bijoux, qui sent bon, qui est jolie, qui est gentille. Alors, le gosse est ravi de passer 2-3 années avec maman, ou à peine. C'était le paradis. Mais voilà que se pointe un certain Aupic, qui deviendra bientôt général. Aupic, je pense que c'était pas un mauvais bougre, mais bon, c'est le beau-père, ça va devenir le parâtre. Hein. C'est le beau-père qui lui chipe maman, et qui la lui chipe vraiment comme il faut, quoi. Et Baudelaire ne se remettra pas d'avoir connu le paradis terrestre seul avec sa mère et de s'être fait expulsé du paradis terrestre par ce général Aupic et qui portait un nom un peu Aupic. Bon, voilà. Et c'est ce qui fait que Baudelaire, qui n'est pas un révolutionnaire né, mais qui est, je pense, un anarchiste profondément, je crois. Hein. Baudelaire, par haine de son beau-père, va se retrouver, et parce qu'il est jeune, il va se retrouver sur les barricades de 1848, demandant à la foule de fusiller Aupic, ça n'a pas marché, et le rival est resté. Baudelaire, après cela, va quitter Paris parce que Aupic reçoit une mission à Tours, je crois. Oui, je crois. Et voilà le trou. À Lyon ? Vous êtes sûr, camarade ? C'est qui a parlé ? C'est toi ? Oui, alors, bref, oui, Lyon. C'est qui l'a dit ? Maintenant, il va dire oui. Non, enfin, j'ai entendu Lyon et c'est vrai que c'est à Lyon. C'est lui qui a attrapé la queue du Mickey. Bravo, jeune homme. Bref, c'est à Lyon. Et alors là, à Lyon, Baudelaire ne se plaît pas du tout. D'une certaine façon, c'est son premier voyage, puisque nous allons parler des voyages que j'ai mis entre guillemets. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, il va finir son collège à Lyon. Il s'y déteste. Ensuite, il revient à Paris. Ouf, il respire, parce que Baudelaire, c'est Paris. C'est un Parisien pur jus et qui n'arrive plus à respirer s'il ne sent pas, en gros, l'odeur du métro. Même si le métro, moi, je le sais. Voilà, du crottin. Bon, et des fumées parisiennes et des quartiers plus ou moins populeux. Bon. Il rentre à Paris, là il va passer son bac, ok, et c'est d'ailleurs un fort mauvais sujet dans l'ensemble, mais brillantissime. Et après le bac, à moi la vraie vie, d'autant qu'il avait hérité de son papa. Il avait des thunes, le petit Charles. Et alors il s'est mis à les croquer avec une passion sans pareil. Et puis, il était comme tous les jeunes gens, ou jeunes femmes que nous fûmes. Quand on a 20 ans et qu'on a de la thune, qu'est-ce qu'on fait ? On la dépense. Rares sont ceux qui pensent à la retraite, des vieux. Et donc, il a tout dépensé, mais avec une vélocité remarquable. Et je te me fais faire des costumes. Des costumes, mais alors chicos, chicos, chicos. Et je te me paye des hauts de forme invraisemblables. C'était un punk qui aimait les bijoux. Il aimait se faire teindre une mèche de cheveux en bleu ou en violet et porter des bijoux de femme. On en reparlera à propos de Jeanne Duval. Et donc, en moins de deux, on voit le petit trésor de papa François qui diminue, diminue, diminue. Et au pic, dit ce jeune homme, on va le mettre au pas. On va l'enlever à la capitale, où il fréquente les mauvais lieux. Et puis, eh ben, la seule solution, c'est de le mettre sur un bateau. Alors, un bateau avec un fond, quand même. C'était pas comme Carrier avec les noyers de Nantes. C'était pas ça. Il y avait un fond. Ce bateau s'appelait le bateau des mers du Sud, si je me souviens bien. Et en avant, pendant un an, tu vas te tenir tranquille au milieu des matelots. Tu vas voir le monde un peu, ça forme la jeunesse, et puis ça permettra de reconstituer la cagnotte et d'éviter qu'elle soit complètement perdue. Donc, quand je me suis intéressée au voyage de Baudelaire, si je les ai mis entre guillemets, c'est parce que Baudelaire, en réalité, a été dégoûté à vie des voyages, puisque son premier voyage, grand voyage, était en fait une punition qui lui était présentée comme telle et qu'il a ressentie avec beaucoup de colère et de douleur. Baudelaire, c'est un homme de colère, moins que Vallès, bien sûr, mais c'est un homme de colère. Et avec cette plaie de la maman perdue, quoi, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Il part, la rage au ventre et la tristesse, et au bout de 6 mois, les voilà arrivés à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, le bateau a une panne, il faut le faire réparer, on va à La Réunion. À La Réunion, il confie au capitaine du vaisseau, qui est devenu son ami, son seul ami, parce que c'est pas un gars qui... Baudelaire, il n'est pas très liant. Mais avec le capitaine du vaisseau, ça a marché. L'homme était intelligent, il comprenait son petit passager, et il a décrété que si on devait l'amener jusqu'aux Indes, comme c'était prévu, préférait se noyer. Et puis il n'avait pas l'air de rigoler. Alors le capitaine de vaisseau a pris peur, a contacté au pic et a dit « Écoutez, moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de ce suicide et donc je vais mettre votre beau-fils sur un bateau pour le ramener à Toulouse. C'est moi qui viens de Toulouse. Non, non, et à Toulouse, il n'y a pas trop de ports. C'était forcément, non pas à Toulouse, mais à Bordeaux. » Voilà, on l'a ramené à Bordeaux et le fameux voyage, le seul voyage de Baudelaire a donc duré 6 mois. Il prétendra après, parce que qui n'a pas menti une ou deux fois pour se faire mousser, ne lui jetons pas la pierre, il a prétendu qu'il était allé jusqu'aux Indes et au café quand il avait bu un petit coup ou quand il fumait de l'opium, il racontait l'Inde comme s'il y était allé. Bon, ça... Rien à redire, nous l'avons tous fait. Ah, en gros, bon. Alors, le voilà donc de retour à Bordeaux et on pourrait se dire, ce voyage a été quoi ? Totalement improductif, inefficace ? Pas du tout. Si on essaye de tirer les aspects positifs de ce voyage... Premièrement, Baudelaire a su montrer que c'était un homme qui n'avait pas peur. Il est arrivé des tempêtes, des avaries graves, au cours desquelles Baudelaire, le jeune homme qui avait à peine 20 ans, a prêté main forte aux matelots, puisqu'ils étaient occupés à autre chose, Bon, alors, il leur a prêté main forte, et c'était un gars qui n'avait peur de rien, qui était capable de monter au mât, les cordages et tout. Il a montré que, certes, c'est un grand angoissé, mais la peur du danger réel ne l'atteint pas. Ce n'est pas un peureux, ce n'est pas un poltron, et ça fait bien plaisir. Un. Deuxièmement, il a tiré de ce voyage des goûts qui ont influencé sa vie privée et, évidemment, par-delà sa vie privée, qui ont donné à sa poésie une source d'inspiration dont il ne s'est jamais départi. Cette source d'inspiration, c'est le goût de l'exotisme. Alors, je vous disais que ça avait modelé cette histoire, ça avait modelé ses grands modèles amoureux. Il rencontre là-bas, c'est-à-dire notamment à La Réunion, il rencontre des femmes dont la beauté singulière, dont le côté exotique va le frapper et l'impacter pour toujours. Et c'est ainsi que lorsqu'il rentre à Paris, au quartier latin, qui reprend sa vie de jeune bohème argenté, il va tomber en admiration fou devant une mulâtresse qui jouait au théâtre, dans un théâtre pas de très grande envergure, mais elle jouait au théâtre, elle s'appelait, on ne sait pas comment elle s'appelait, elle se faisait appeler Jeanne Duval, et c'est cette belle mulâtresse qu'il a, au fond, aimée, mais dans tous les sens du terme. Non seulement au début, vous vous souvenez, quand on avait 20 ans, les hormones, tout ça. Alors, il y a eu ça, évidemment, c'était sa maîtresse bien-aimée, pour laquelle il a dépensé le reste de la cagnotte du père François, pour lui acheter des bijoux, des rubis, tout ce que vous voulez, qu'il lui empruntait parfois pour s'orner lui-même quand il sortait avec ses cheveux colorés, le punk chicos. Bon, alors cette Jeanne Duval, que trop d'auteurs ont qualifiée de pauvre fille, quand on lit quand même de près, c'était pas une gourde absolue, même s'il lui a écrit « N'es-tu pas l'oasis où je rêve ?» et la gourde où je eus ma lontrée. Le vin du souvenir, bon, mais il y a gourde et gourde, vous comprenez bien. Alors, moi j'aurais aimé qu'on m'écrive que j'étais une gourde dans ce genre. Parce qu'on m'a souvent dit que j'étais une gourde dans l'autre genre. Mais on m'a jamais dit, n'es-tu pas l'oasis où je rêve et où j'ai eu ma lontrée et le vin du souvenir. Non, j'attends toujours, messieurs, tu leur donneras mon adresse. Bon, revenons à notre petit mouton noir. Le voilà donc fort épris de Jeanne Duval. Et quand je dis que, par-delà, évidemment, l'érotisme, hein, il y a eu ensuite une fidélité à toute épreuve de Baudelaire pour Jeanne. Même lorsque Jeanne a été vraiment très esquintée par la vie, eh bien, jamais il ne l'a laissée tomber. Et il lui a donné de l'argent pour qu'elle soit moins malheureuse et il est allé la visiter. Je trouve que ça ne mérite pas trop les sarcasmes de certains. Alors, ça c'est le deuxième point positif du point de vue de l'inspiration littéraire. Ces pays, notamment la Réunion, ont été ensuite transformés et ont été dans les fleurs du mal, la source de fleurs magnifiques. Autre chose encore, Il y a un poème qui, je crois, alors qui, bien évidemment, il y a deux poèmes que l'on situe très exactement à son retour direct de la Réunion. Alors, le premier, tenez, je vais vous le réciter. Je vais vous le réciter parce que, justement, il est dédié à Jeanne Duval, mais je le reprendrai à la toute fin en lui donnant une autre signification. Ce poème s'intitule « Parfum exotique ». Quand, les deux yeux fermés, par un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les fleurs d'un soleil monotone. Une île paresseuse, où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Bercé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, tandis que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Ce poème-là a été écrit juste au retour et il s'intitule « Parfum exotique ». Ce poème est capital. J'ai dû le faire étudier 20 fois à mes élèves pendant ma carrière. Et il a une double, comment dire, un double intérêt, un triple. Premièrement, c'est un des rares poèmes du bonheur. Parce qu'avec Baudelaire, les poèmes du bonheur, on les compte sur les doigts d'une main. Bon, un poème du bonheur. Je dirais même de l'extase. Poème de l'extase. Deuxièmement, c'est un poème qui illustre admirablement ce qui va devenir sa grande théorie poétique, à savoir que les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Toute son œuvre poétique est basée là-dessus. Enfin, c'est un hommage à Jeanne Duval. Écoutez le tu, quand les deux yeux ferment. Alors, on se remet, parce qu'il est tellement important ce poème. Quand les deux yeux fermés. Voyez la position. Par un soir chaud d'automne, il faut qu'il y ait une certaine ambiance. Je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Et ensuite va se déclencher une vision, et une vision bien heureuse. Quand je respire, je vois les parfums, les couleurs. On en est là. Je vois. Alors c'est comme un film, c'est comme un dans un film, vous auriez un plan, un panoramique extraordinaire, et puis petit à petit, on va se rapprocher, on va arriver à un insert. Alors je vous explique, le panoramique, je vois, hein, je vois se dérouler, des rivages heureux, on arrive par bateau. Je vois se dérouler des rivages heureux, qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Il faut entendre monotone, monos et tonos, c'est-à-dire monos un seul, un soleil qui n'aurait qu'un seul ton, c'est-à-dire un soleil omniprésent, un soleil qui jamais ne fait défection. Un soleil sur lequel tous les jours vous pouvez compter. Un éclairage bienheureux de tous les jours, au quotidien. On reprend le film. On est parti, donc je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone, une atmosphère plutôt cosmique. Deuxième caprin, je vois quoi ? J'ai remis « je vois ». Une île. Ah, on se rapproche. Une île. C'est féminin, une île. Et cette île, elle va être associée à des adjectifs qui l'humanisent totalement. Une île généreuse où la nature donne, on est dans un univers complètement féminin du point de vue des mots employés. La nature donne quoi ? Et là encore, on se rapproche. On n'en est plus à l'île, on en est à végétation et les humains qui habitent cette île, les insulaires. Une île, donc, paresseuse où la nature donne, des arbres singuliers et des fruits savoureux. Et après les arbres, les hommes. Ces hommes sont idéalisés dans leur beauté physique, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes, on termine, on revient sur la femme, et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne. Beauté morale des femmes, beauté physique des hommes, beauté morale des femmes. Avez-vous vu que nous sommes passés, on est passé de cette arrivée par bateau en vue de rivages heureux et que nous aboutissons dans la première vague du poème, parce qu'il est constitué de deux vagues, nous aboutissons à cette espèce de femme cyclope dont l'œil, par sa franchise, étonne. Par opposition, bien sûr, à d'autres femmes. Et à qui pense Baudelaire ? Ben, il pense à ce qui se passe dans la capitale, la fourmillante cité, pleine de vices et de malheurs. Voilà. Bon. Deuxième vague du poème, après, je vous ai dit, alors ça recommence, c'est comme le flux de la mer. Quand les deux yeux fermés, je respire, à ce moment-là, je vois. Et ça continue, deuxième vague, bercé par ton odeur, c'est très animal l'odeur, ça fait deux fois qu'il dit l'odeur, bercé par ton odeur vers de charmants climats, je vois, ça recommence, l'odeur, la vision, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, tandis que le parfum, ça y est, ça nous manquait ça, on avait l'odeur, quand je respire, parfum, couleur, toute l'île, le soleil, et maintenant parfum, parfum, à savoir, tandis que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine, c'est aéré, les fenêtres sont ouvertes, ce merveilleux sentiment d'expansion se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Et là, du parfum, on retourne à Louis. Enfin, non, oui, on va aboutir à Louis. Alors, c'est donc une parfaite illustration, ce poème, écrit au retour de la Réunion, de ce qui ensuite va être formulé dans le poème qui est un art poétique, comme on dit, un poème qui explique tout le projet de Baudelaire en poésie. Et ce poème, il est intitulé « Correspondance », le fameux poème des correspondances qui a inspiré tant et tant de gens, et notamment Rimbaud, les voyelles et tout ça. Bon, pour ceux qui aiment bien Rimbaud. Voilà le poème des correspondances. La nature est un temple. Vous voyez, pas loin de nous le type, de ce que nous devenons. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe, à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Ce vers-là, il est situé exactement au centre de ce sonnet. Et après, il développe sur deux types de parfums, puisqu'il en est au parfum. Vous savez, Baudelaire, c'est comme Proust, le nez. Une haie d'aubépine pour Marcel Proust, souvenez-vous de l'effet que ça produit. Ben lui, c'est pareil, le parfum. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien d'esprit, ô mon amour, nage sur ton parfum. Ça, c'est tout Baudelaire. Bon. Et dans les deux derniers tercets, il va s'expliquer et opposer. Il y a deux parfums, types de parfums complémentaires. Il est des parfums frais, comme des chairs d'enfant, écoutez bien. Il est des parfums frais, comme des chairs d'enfant, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies. Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, Baudelaire, son goût natif. Maman, mais c'est pas la culotte à maman, couillon de telé, va. Il n'y a pas que ça dans la vie, la culotte à maman. Un peu, mais bon, pas trop. Bon, alors, voilà, en gros, j'oublie un poème qui est capital, sur la première partie, à savoir les voyages géographiques. Ça va. Ce poème capital que nous devons à l'expédition de Baudelaire dans les mers lointaines, c'est l'Albatros. Parce que si j'ai dit que le poème des correspondances contenait un art poétique, c'est-à-dire une façon de sentir le monde et ensuite de le restituer dans la poésie à travers toutes sortes de synesthésies, il y a un autre poème hyper célèbre que vous avez dû tous apprendre quand vous étiez en première ou terminale, et c'est le poème de l'Albatros. Parce que là, Baudelaire réfléchit à un autre sujet qui est quelle est la fonction et la position du poète dans la société bourgeoise du XIXe siècle dans laquelle il vivait. Le poème démarre ainsi. C'est d'abord une scène, on dirait un récit de Melville ou de... Bon, c'est une scène maritime. Ça a l'air de rien au début. Enfin, ça a l'air juste de... C'est donc... Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. Vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Et la fin du poème donne toute la saveur à ce qui est une parabole poétique. Le poète est semblable. Ça y est. Vous savez, c'est comme les comparaisons à longue queue que l'on trouvait chez Homère. Comme, tatati, 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 tatata, ainsi. Et ça repart. Et donc, nous tombons sur le sens profond du poème. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, c'est très beau, c'est très douloureux, moi, à 16 ans. Oh, Charlot! Oh, c'est beau, Charlot! Mais c'est vrai que c'est beau, c'est merveilleux, cette histoire de l'albatros. Et vous avez vu comment il arrive à, je sais pas, à faire ça, finalement, ça et ça. Hein? Montrer cet albatros, la déchéance de l'albatros, quand il est capturé par des rien qui vaillent, finalement. Des pauvres gars qui vont s'amuser aux dépens d'un oiseau. Eh bien, le poète, dans la société bourgeoise, se sent estropié, il se sent, il est hué à sa façon. C'est l'incompris, c'est le thème de l'incompris qui a été développé par Gérard de Nerval. Bon, voilà, hein, c'est ça. Alors, puisqu'il n'aimait pas les vrais voyages, oh, c'est vrai qu'il n'aimait pas les vrais voyages, après, il est resté à Paris. Il est resté à Paris parce que c'était sa tanière, Paris. Sa tanière. Oh, qu'est-ce qui était bien là, à Paris. Alors, il y a une autre fois où il va voyager, quand même. Terminons-en avec les voyages géographiques. Il va voyager et il va y laisser la peau, en gros. C'est-à-dire, sa peau, elle tient plus beaucoup. Quand il se remet à voyager, à quitter Paris, il est mort en 1867, il doit partir en Belgique vers 1864, je dirais, quelque chose comme ça. Bon, et pourquoi diable est-il parti en Belgique? Eh bien, parce que en France, il avait des déboires. D'abord, il avait des... Comment ça s'appelle, là? Vous savez, quand vous avez des crédits... Vous n'arrivez pas à payer vos crédits, là. Ouais, il avait des dettes et des huissiers au cul, enfin, voyez le genre. Donc, il était obligé. Je crois que, certes, j'ai dit qu'il était parisien, mais il a dû déménager pour échapper à ses créanciers. Il a dû déménager de bicoque en bicoque pendant au moins 20 fois. Hein, au moins 20 fois de son retour des îles, on a dit 1841. Et vers 1864, donc vous voyez, en 25 ans, c'est ça? Alors là, comptez, je ne sais pas. Bon, alors disons que il a déménagé comme faisait Balzac. Bon, Balzac, il n'arrêtait pas de faire les malles parce qu'il avait du monde derrière lui, à ses trousses, voilà. Et... il se trouve que Baudelaire, donc, en 1857, date capitale dans l'histoire de la littérature française du XIXe siècle, 1857. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Eh bien, il y a deux gars. Il y en a un qui s'appelle Gustave Flaubert, il avait le moustache, et puis il y a Charles Baudelaire, qui sont traînés devant les tribunaux. Vous savez, sous le Second Empire, ça rigolait pas. Mais alors, pas du tout, du tout. Faut pas s'étonner après qu'il y ait eu la Commune. Bon, alors, ça rigolait pas du tout. Charles Baudelaire est traîné devant les tribunaux parce qu'il a publié dans les Fleurs du Mal des pièces où il parlait des femmes damnées. Vous voyez le genre, les femmes damnées. Celles qui aiment pas les hommes. Bon. Alors, gros scandale, Delphine et Hippolyte, tout ça. Donc, il a il est condamné, alors à lui qui n'a pas un rabbi, il est condamné à une somme astronomique. Il se dit, bon, il va falloir que j'aille voir ailleurs, peut-être. Pendant que Flaubert, qui... Bon, Flaubert pour Madame Bovary, et Dieu sait si ce livre est scandaleux, à nos yeux. Mais la bourgeoisie... Bon. Pendant que Flaubert, lui, va s'en tirer un petit peu mieux, il a des soutiens... Bon, et ils s'en tirent mieux. Mais enfin, c'est les deux procès, je dirais, littéraires du XIXe siècle. Hein, ça, c'est incontournable. Bon, alors Baudelaire, il trouve que Paris, ouais, c'est évidemment, c'est bien. Mais il se dit, bon, ben, je vais aller en Belgique. D'abord parce que mes créanciers vont rester à la frontière. Deuxièmement, parce que là-bas, on vient de publier, qui ça ? On vient de publier Victor Hugo. Et Victor Hugo, il se rend pas compte, Baudelaire, vous savez. Alors nous, maintenant, on voue un culte, mais à l'époque, c'était pas ça, hein, Baudelaire. Il avait pas... C'est un peu comme les Rimbaud et autres, quoi, qui ont surtout été reconnus après leur départ, comme tant de peintres, comme Van Gogh, comme... Et donc, il se dit, je pars en Belgique, ok. Seulement, en Belgique, il s'est dit, bon, comment est-ce que je vais vivre ? Je vais faire des conférences. Alors ça, il ne faut jamais faire des conférences pour vivre. Hein. Il faut les faire juste par plaisir, par passion, parce que sinon, on vivrait en short. Première chose. Donc, il pense qu'il va faire des conférences et que Charles Baudelaire, tout le monde va venir comme ça l'écouter. Deuxièmement, alors, les conférences, il en fait une. Alors oui, il y a quelques clampins qui se déplacent pour voir comment il est foutu, Baudelaire et tout. Et puis ça fait flop. Mais alors complètement flop. Hein. Il n'a pas de quoi se payer le sandwich. Et puis après, il se dit, bon, ben je vais faire un guide de voyage touristique, voyez genre. Sur les grands lieux de la Belgique. Bon, et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a. Seulement, Baudelaire, alors, il va avoir une déception avec la Belgique. Et il écrit des trucs. Si vous ne les avez pas lus, c'est pas la peine. Pauvre Belgique. Amo initates Belgicae, ce qui est un titre latin qui veut dire gracieuseté belge. C'est complètement méchant, faux. C'est lui qui a inventé l'humour belge. C'est pas son plus grand mérite. Bon. Elle puait comme une fleur moisie, dit-il. Les fleurs du mal, les fleurs maladives, ça devient là, en Belgique, c'est des fleurs carrément moisies. Il parle donc d'une jeune Belge. Elle puait comme une fleur moisie. Moi, je lui dis, mais avec courtoisie, que ne prenez-vous un bain régulier afin de dissiper ce parfum de bélier ? Vous avez compris que c'est pas la peine, ce n'est pas le voyage enchanteur, nous ne pouvons pas trouver des poèmes extatiques comme on en trouvait au retour de la Réunion, non, non, tout à jeter. Simplement. Et il prend la Belgique en horreur, même en tant que pays. Tout lui semble moche, mais moche, et ça pue, et tout. Alors son guide touristique, il fait flop aussi, le guide touristique, il n'y a pas moyen. Et ce pauvre Baudelaire, finalement, qui meurt au bout de 3 ans, en 1867, il va vivre misérablement. Il a quelques amis là-bas. Je crois qu'il y a le peintre, le dessinateur Félicien Rops, le magnifique Félicien Rops. Et puis quelques amis dévoués. Mais c'est une galère. Et il va finir par en sortant de l'église Saint-Loup de Namur, il a une crise. C'est de là que Partelet, si vous lisez son roman... visitant cette église, il chancelait depuis pas mal de temps, il était malade et il heurte un pavé, tout tourne, il s'effondre et il va rester paralysé et aphasique. Et la seule chose, d'où le titre de Tellet, la seule chose qu'il arrivait à dire encore pendant l'année qui a précédé son décès, c'était, il était chez les bonnes sœurs, oh là 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 là, il était chez les bonnes sœurs, et là, sur son fauteuil roulant, bavougnant, il levait le poing vers Dieu en disant « Créon, Créon », c'est-à-dire « Sacré nom de Dieu ». Pendant un an, la seule chose, lui, le grand poète, qu'il a pu dire, c'était « Créon ». Mais au moins, il exprimait cette révolte. Moi, ça me fend le cœur, complètement, ça me fend le cœur. Il vaut mieux plaisanter parce que, bon. Donc, il est mort aphasique, sans pouvoir parler. Et quand j'ai lu après, autour de son séjour en Belgique, qu'il était resté très, très, très longtemps devant un tableau religieux, dans une église, je ne sais plus dans quelle ville, en faisant son tour touristique, qui représentait la mort d'un saint à qui on avait arraché la langue. Alors si... Ça vous dit rien, jeune homme ? Mais oui, c'est à vous que ce discours s'adresse. Bon, enfin, je retrouve ni le lieu, c'était en Belgique, une grande église, et Baudelaire ne pouvait pas, c'était avant son aphasie, son coup de... On ne pouvait pas le sortir devant ce tableau qui représentait le martyr d'un saint que l'on avait torturé en lui arrachant la langue. Et quand on met tout bout à bout, on se dit vraiment que c'est crucifiant, quoi. Hein ? Et ce Baudelaire qui est si splinétique, alors on va parler de ça maintenant. Ce Baudelaire, il y a des moments, vous savez, on se dit que le poète a comme une préscience de sa mort. Je vous lis tout de suite, tenez, parce qu'après je vais oublier. Il y a un poème, moi, qui me fait drôle. C'est celui qui est intitulé « La cloche fêlée ».« La cloche fêlée ». Écoutez bien. Il est amer et doux pendant les nuits d'hiver d'écouter près du feu qui palpite et qui fume les souvenirs lointains lentement s'élever au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Et toujours pareil, la solution est après. Mon âme est fêlée. Je suis une cloche fêlée. Moi, mon âme est fêlée. Et, lorsqu'en ses ennuis, mon âme, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Ce poème, quel cauchemar! Et quand on sait qu'il l'a écrit 15 ans, il a ça déjà, comme une espèce... Pour lui, le cauchemar absolu, finalement, c'est ça. C'est cette hantise de l'aphasie et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Le râle, et il a râlé un an, toute sa vie, en levant le poing vers les cieux. Bon. Nous rentrons maintenant de Belgique et nous allons aborder le thème, en fait, peut-être dominant, vous allez vous dire, bon, alors, elle a fini sur les voyages. Ben non, j'ai pas fini. Parce que puisqu'il n'aimait pas les voyages à l'étranger, le dernier l'ayant tué, ben, d'abord, il faut dire, rappeler que Baudelaire a donc chanté le lieu où il se trouvait bien, où pour une fois dans la vie, il ne se sentait pas le perpétuel exilé. Ce lieu, c'était Paris. Je vous laisse de vous-même, si ça vous intéresse, aller lire les tableaux parisiens dans Les Fleurs du Mal, aller lire le spleen de Paris, c'est de la poésie en prose, et c'est un chef-d'œuvre, c'est un des tout premiers qui se soit collé à cet exercice tout nouveau de faire de la poésie en prose. Et si vous êtes intéressé par Les Fleurs du Mal, vous trouverez souvent dans le spleen de Paris l'équivalent en prose. Il y a un poème qui est extrêmement beau, c'est dans Les Fleurs du Mal, c'est La Chevelure, qui est un poème dédié à Jeanne triomphante, Jeanne des débuts, avec ses grands cheveux noirs, Jeanne dont il dit qu'elle est comme un vaisseau qui danse quand elle se déplace. Jeanne dont il chante cette chevelure qu'il veut parsemer, parce que c'est une houle d'ébène, cette chevelure, c'est cosmique. Quand il parle de Jeanne et de sa chevelure, il en fait une déesse de la terre et de la mer, tout bêtement. Il la déifie complètement. C'est cette puissance donc de la poésie qui va magnifier la compagne et qui lui donne une place cosmique. Ça fait du bien, la poésie, pour lui et pour nous. Parce qu'il se fait du bien dans toute son œuvre. Il va faire ce qu'il a dit, cette déclaration d'amour à Paris. Il n'arrête pas de faire des déclarations d'amour à Paris. Des vraies déclarations à une femme, non. Mais alors à Paris, oh, cette cité, il en a la passion. Et il lui dit, pourquoi l'aime-t-il tant? C'est parce qu'elle a été le lieu où il a pu, comme un sculpteur, aller chercher toute l'argile dont il avait besoin pour modeler son œuvre. Et il dit à Paris, je t'aime, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Ben, d'une certaine façon, il pourrait dire ça aussi à certains épisodes avec Jeanne Duval, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Hein, transfiguration du monde par la poésie. L'alchimie poétique consiste à prendre le quotidien, une cité où il y a des miséreux, des petits vieux, des petites vieilles, des fenêtres à travers lesquelles ils regardent en disant « Oh là là, on voit tellement plus de choses quand on est posté, non pas comme nous tous devant la fenêtre de notre appartement et que nous regardons. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on est juste un passant? Et que derrière la fenêtre, nous apercevons une bougie. Une bougie et une personne à côté. Une femme triste, quelqu'un qui lit. Oh, là c'est tout un univers qui nous est donné. Alors on fait passer Baudelaire pour un salopard, un crétin, qui aurait mauvais caractère. Il a écrit des pages sur l'empathie qui sont totalement bouleversantes, mais totalement. Baudelaire, c'était un empathique fiévreux. Et c'est pour ça qu'il aimait les foules, je crois comme Jules Vallès, ce goût commun pour les foules. Alors lui, c'était pas pour être un tribun, mais la foule, il disait que dans une foule, c'était tant et tant d'histoires côte à côte que ça emplissait sa vie. Rien que de croiser des anonymes, et on le voit bien à une passante, à ceci, à cela. Bon, alors j'en étais là. Et j'ai dit qu'il n'avait plus quitté Paris, oui, parce qu'à Paris, il a, comme beaucoup d'entre nous, il a un chat. Il a écrit plusieurs poèmes magnifiques sur les chats. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un gros chat, ta-ta-ti-ta-ta-ta. C'est un des peintres des chats. Et avec ce chat et avec sa pipe, en gros, il y arrive. Il sort beaucoup, il va se promener dans la foule, il ramène des poèmes, tout va bien, sauf que c'est un homme malade. Malade, malade. Et pourquoi il est malade ? Je vous ai donné une des clés au début. Bon, c'est pas de la psychanalyse à deux balles, c'est clair, c'est clair. C'est que ce petit garçon, qui était fou de sa maman, ce fils unique, qui s'appelle Charles parce qu'elle s'appelle Caroline. Bon, Caroline et Charlot, tout ça, bon. Et qui a vécu dans une intimité bienheureuse. Quel malheur! Puisque ça devait ensuite lui être ôté. Bon, eh bien, ce Charles Baudelaire, il a connu une désillusion en perdant sa mère, qui l'a crucifié, mais crucifié à jamais. Et après l'amour, alors, il a des propos misogynes, oui, mais faut tout lire, bon, il a des propos misogynes, ok, mais le pauvre vieux, il n'a pas eu de bol quand même. Son premier rapport amoureux, avec une certaine Louchette, qui était une prostituée d'assez bas étage, il se chope la syphilis. Le premier jour, maman m'a trahi, j'ai été cocu de maman. Ma première conquête amoureuse, enfin conquête, bon, elle me file la syphilis. Et après, avec Jeanne, elle avait un foutu caractère. Elle n'était pas bête, mais elle avait un sacré mauvais caractère. Après, il a eu d'autres maîtresses, vaguement, un soir, Madame Sabatier. Oh, Madame Sabatier, oh là là, il a reluqué celle-là depuis un temps fou. Il te lui faisait un gringue et déplacé, chicos, avec Madame Sabatier. Bon. Et le jour où elle s'est donnée, le lendemain, il lui a dit, oh là là, quel dommage. On n'en parle plus, hein. Bon, donc les femmes et l'amour, pour lui, ça ne sera jamais un antidote à sa dépression. On dirait aujourd'hui que cet homme-là, c'est un bipolaire. À savoir que ses voyages, pour vous parler maintenant des vrais voyages de Baudelaire, sont pas des voyages géographiques, sont des voyages intérieurs. Sont des voyages intérieurs qui le font passer... Alors, très très rarement, c'est pas des voyages à l'horizontale, c'est des voyages à la verticale, dans les deux sens. Alors, de temps en temps, merci Seigneur, je vous ai dit, sur les cinq doigts d'une main, on les compte, il y a des poèmes, vraiment, où il se sent, là, comme l'oiseau, hein? Des jours où il plane, mais alors, pas souvent. Et la plupart du temps, il est là-bas, tout à fait au fond du seau, au fond du trou, au fond de l'enfer. Et c'est ce qu'il appelle, d'un côté, les poèmes de l'idéal, avec un grand I, et les poèmes du spleen. Il y a toute une section qui est éblouissante, qui s'intitule « Spleen et idéal ». Et si elle s'intitule dans cet ordre-là, « Spleen d'abord et idéal parfois ».« Spleen » à 90% des cas, « idéal » les jours de fête, à peine 10%. « Spleen et idéal », donc vous voyez, je parlais de bipolarité, bon, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un homme torturé, qui ne cesse de balancer, mais alors d'une façon fracassante, entre des moments d'espoir, même d'enthousiasme, et des moments de désespoir quasi suicidaire. Bon, alors, un exemple, pour vous donner l'idée d'un poème, un poème de l'idéal. C'est celui qui s'intitule « Élévation ». Élévation. Alors, je vais quand même le mettre sous le pif parce que il est tout à fait au début. Voilà. Élévation, ça dit bien ce que ça veut dire. Et ça commence ainsi. Au-dessus, voyez le mouvement vertical, comment ça décolle, on dirait un avion. Au-dessus des étangs, on part de bas, des étangs. Au-dessus des vallées, des montagnes, on s'élève. Des mers, les mers vues depuis les montagnes, mais on continue l'ascension. Des mers, des bois, les bois qui couronnent les montagnes, on est revenu au niveau des montagnes, des bois, des nuages. Par-delà, oulala, par-delà le soleil, par-delà les étoiles, par-delà les confins des sphères étoilées. Première strophe. Je vous la relis, assistez au décollage, hein, maintenant. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Alors, vous avez vu l'esprit quand il est dans la plénitude, cet esprit devient comme un oiseau. Il devient aussi comme un nageur. Il faut avoir fait du snorkeling pour comprendre ce que ça peut donner. Un bon nageur qui se pâme dans l'onde. Bon. Et il continue en disant c'est pas loin de ces miasmes morbides, c'est... Alors, ils y sont, hein, les miasmes morbides, mais c'est... Ah. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Ici-bas, et va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Vous avez vu tous ces i, hein, c'est le feu. Rimbaud après s'occupera de tout ça quand il y a le i comme ça. Bon, et il conclut en disant: heureux celui qui peut comme les alouettes, mais avant, kiki, il y a autre chose. Enfin, quand même. Hein? Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse. Heureux, c'est comment, les béatitudes, vous savez, dans les cantiques religieux. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Cet homme me rend folle. Ce poète, heureux celui qui... Ces béatitudes, celui qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Vous le sentez là, Ben, il n'a pas eu besoin de payer comme l'autre là qui a fait un petit truc sur la lune là, ce gros Richard là. Bon, non, alors lui il décolle tout seul, hein, Baudelaire. Ah, c'est pas souvent, mais quand il décolle, c'est pour de vrai. Bon, alors il y a ça, voyage vertical comme ça. Et puis alors les exemples de descente aux enfers, vous en avez à la pelle. Vous n'aurez qu'à vous-même feuilleter. Et ces jours-là, hein, y en a un qui s'intitule « Le goût du néant ». Le goût du néant. Ça nous amènera à notre conclusion que le seul voyage qui tienne, c'est la mort. Quand il y a trop marre, le goût du néant. C'est dans le goût du néant que l'on trouve ce vers que des fois je me récite en faisant le jardin et il me tourne en boucle les jours où j'ai pas le moral. Hein. Les jours où j'ai pas le moral, c'est « avalanche ». Veux-tu m'emporter dans ta chute? Mais là, je suis pas bien. Hein, je prends aussitôt du séroplex. Bon. Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute? Magnifique. Ça commence par le printemps adorable a perdu son odeur. Vous ne connaissez pas le Covid, le type. Ça commence par ça. Le spleen, tenez, j'ai quand même oublié de vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Spleen, c'est un mot anglais qui veut dire la rate. J'espère qu'elle est bien. Bon, enfin, la rate, vous voyez. Alors, ça veut dire la rate. C'est un mot anglais et qui rejoint, finalement, étymologiquement, hein, quand on y réfléchit, le terme de mélancolie. La mélancolie, ça vient de mélasse, qui veut dire noir. Mélanie, c'est la noire. C'est noir, par opposition à blanche, avec un grand B. Hein, Mélanie, la noire. Et la mélancolie, donc c'est mélasse, noire, et colosse, la bile. La mélancolie, c'est une notion du Moyen-Âge, même qui remonte aux grands sages antiques, qui étaient à la fois médecins et tout ce que l'on veut. Et la mélancolie, c'est quand on a mal au foie. Non, c'est quand on est un bilieux. C'est quand on a qu'on fait de la bile noire. Ça va devenir aussi le blues. Hein, le blues, c'est une variante. Les chanteurs de blues au départ. Avoir le blues, avoir le cafard, avoir le spleen. Mais alors le spleen baudelairien, je pense que là, c'est le top du top. Dans le genre, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau, ça va pas, et tout ça, et c'est quand que ça s'arrête, cette histoire de fou. Bon, alors, dans ce genre-là, il y a... Oh, allez, quand même, allez, je vous en fais un, quand même. Hein. Alors, je vais m'aider. Ça va être... Alors, attendez, ça va être... Voilà, spleen, le spleen. Il a écrit 4 poèmes qui sont tous intitulés spleen. Alors, il y en a un, c'est « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux ». Plus vieux, on fait la diérèse, hein, s'il vous plaît, pas plus vieux. Je suis comme le roi d'un pays plus vieux. Autrement, vous n'avez pas l'alexandrin. Deuxièmement, il y a quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Eh bien, je vous le fais celui-là. Allez. Ah, tu veux le dire?
Non,
vas-y. Mais c'est bien, oh là là. Comme hors posthume. Excusez-moi. Harmonie du soir, ciel brouillé, Charlotte. Je ne sais pas où je l'ai mis. Spleen. Vous voyez un peu comment, parce que c'est, en fait, si vous y réfléchissez, vous allez y découvrir l'évocation, description poétique du déroulement d'une crise nerveuse baudelairienne. Écoutez bien. Les conditions d'abord, à chaque fois que vous avez « quand », alors écoutez, « quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que, quand et que, deuxième condition, et que, de l'horizon embrassant tout le cercle, il, le ciel, nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Quand, troisième condition, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand, quatrième, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Vous avez vu le bestiaire ? Délirium tremens. Quand ces quatre conditions sont réunies certains jours, écoutez bien la chute, des cloches, tout à coup, sautent avec furie et poussent et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et, vous avez eu l'explosion, et après la prostration. Vous avez le hurlement du gars qui est en crise, et après la prostration qui succède. Et la prostration, c'est le dernier quatrain. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Wow. Bon, ça va, on a compris un peu ce que ça te fait, tu sais, Charlot. C'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Hein. Oh, quelle douleur, quelle douleur, quelle douleur. Incroyable. Bon, alors, dès comme ça, il y en a beaucoup, on passe à autre chose, on essaye de donner juste la raison principale du spleen. C'est les désillusions, c'est la perte de maman, c'est ceci, c'est cela. Mais en tant que poète, il est très sensible, il adhère à la devise antique. Vita brevis, ars longa. Ce qui veut dire, la vie est brève et l'art demande du temps. L'œuvre d'art, elle demande un temps fou. Et il exprime ça très bien dans un grand poème aussi spinétique, le dernier de ça. Et ce poème s'intitule « L'ennemi ». C'est mon papa qui disait « l'ennemi » et il roulait les R. Mais c'est « l'ennemi ». Cet ennemi avec une majuscule, eh bien cet ennemi, voilà ce que ça donne. Vous avez un retour en arrière de Baudelaire, 35-40 ans, et qui dit « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. » Inversion du schéma. D'habitude, c'est soleil de la jeunesse, avec inversion, atypique, c'est un irrégulier comme Vallès. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut rassembler la pelle et les râteaux pour, je ne me souviens plus du verre, pour rassembler à neuf les terres inondées. Camarade. Mais qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve, les nouvelles fleurs du mal, trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Oh, douleur! Oh, douleur! douleur. Le temps mange la vie. Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie. Vous la voyez, l'obsession aussi baudelairienne. Ailleurs, il dit « Ah, bientôt, je vais calancher, et puis c'est dans l'horloge. L'horloge te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard. » Il est obsédé par le temps qui passe. Et il est obsédé par le temps qu'il met, il faut réfléchir quand même, que, hein, comme recueil poétique, hein, il est fabuleux, hein. Il y a le recueil poétique des fleurs du mal. Et ces fleurs lui donnent un travail fou. Et c'est pour ça qu'il il poursuit la métaphore, vous avez vu, hein, l'orage, mon jardin est inondé, érosion, est-ce que je vais pouvoir produire des fleurs nouvelles? Or, il en a produit, puisqu'il y a un ajout après les fleurs du mal, vous avez aussi les nouvelles fleurs du mal. Bon, alors, cet homme qui est, on l'a dit, complètement écartelé, où trouve-t-il ses antidotes? Eh bien, ses antidotes, c'est pas tellement l'amour, sauf l'amour magnifié par la poésie. C'est pas tellement... Oui, en fait, l'antidote absolu pour lui, c'est l'œuvre d'art. Créer la sienne, bien sûr, mais quand il est devant des œuvres d'art, d'autres génies, d'autres phares, alors là, il se sent... Enfin, quel bonheur, quelle expansion. Alors, pour son amour des peintres, relisez le long poème des phares, dans lequel il accorde, je ne sais pas, ça doit faire 12 strophes, quelque chose comme ça, hein, et il accorde un quatrain à chacun des génies qu'il a aimés. Alors, en vrac, je vous dis Goya. Alors, il y a Goya, Delacroix, évidemment. Il y a Rubens. Alors, Rubens, il a droit à 2 strophes, celui-là. Ouais. Alors, il y a Rubens. Il y a Watteau, avec les fêtes galantes. D'ailleurs, il y a un poème ignoble, crucifiant, qui porte le mot « voyage ». Dans les fleurs du mal, lisez-le, j'ai pas le temps, un voyage à 6 terres. Alors on croit qu'on va tomber sur un poème à la Watteau, bien mignonné, tout ça, avec des jolies couleurs, et puis en réalité, au lieu de trouver la 6 terres de Watteau, on va trouver une île désastreuse, sur laquelle, quand on aborde dans l'île, c'est le contraire, finalement, de parfums exotiques. On voit l'île, on voit des trucs bizarres dans cette île, dont on sait que c'est l'île de l'amour. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un gibet avec un mec pendu, dont les vautours viennent arracher les yeux, dont les chiens, il y a 4 chiens au pied du gibet, qui lui mordent les noix. Oh, mais ça va loin, hein? Puis ça grouille dans le bide et tout. Et Baudelaire dit, pauvre pendu, ben voilà, en regardant tes yeux crevés, je me suis vue dans toi. Bon, allez, je retourne à mon pupitre. Et où en étais-je? Aidez-moi. Hein? Il faut que je termine. Alors, les antidotes, la poésie, la peinture des autres, la musique des autres, vous dire qu'il a eu une passion pour un gars qui, à Paris, se faisait quasiment lyncher, qui s'appelait, je crois, Richard Wagner. Baudelaire aimait la musique, il aimait Karl Maria von Weber, il aimait Wagner et il a aimé beaucoup Liszt. Et alors pour Wagner, il l'a écouté une fois, il lui a écrit une lettre dithyrambique en lui disant « Monsieur, je vous écris, j'ai cette immodestie de vous écrire, oh mon Charlot. » Alors, j'ai cette immodestie de vous écrire, monsieur Wagner, parce que je vous ai écouté. Et quand je vois tant de crétins qui disent du mal de vous, sachez, monsieur, que vous m'avez donné, votre musique m'a donné un sentiment de grandeur. Tout est grand dans votre musique et j'ai été emporté, élevé très haut, comme un vaisseau sur la tempête, ou comme... Voilà. Donc, de la belle musique, il se sent mieux. Et il finit la lettre en disant « Ah mon Dieu, les soirs de désespoir, si je pouvais me dire « Je vais écouter ce soir M. Wagner ». Bon. Donc la musique, donc on a dit les peintres, et puis quand même recours. Vous savez qu'il s'est quand même à l'hôtel Pimodan, avec, bon, où il retrouvait Gérard de Nerval, mais surtout Théophile Gautier, eh ben, on pratiquait la fumette qui fait du bien. Et il a écrit beaucoup, beaucoup, parce qu'il a étudié ça de près. Après, il est allé voir des sources, c'est vraiment, lisez-le. Hein. Il a écrit le poème du haschich, et il a écrit ensuite les souvenirs d'un mangeur d'opium, traduction de Thomas de Quincy. On dit Quincy ou Quincy ?
Quincy.
Et ?
Quincy.
Quincy. Si j'ai un autre chat, je l'appelle Quincy. Quincy. Bon, alors. Non, mais il faut que je m'amuse, sinon je vais m'endormir. Hein. Alors, il faut que je me fasse rire toute seule. Et donc, voilà les remèdes et les antidotes. Mais allez lire vous-même. Vous allez voir, c'est fort. C'est instructif, c'est réjouissant. Et c'est vrai qu'il a tâté, bien sûr, de la chose. Ça n'a pas aidé sa syphilis. Quoique, quand il souffrait trop, l'opium, ça fait quand même du bien. Hein ? Et si, l'opium. Et alors, évidemment, que ça fait du bien. En tout cas, bon, il s'est super délabré. Et pour finir, eh ben, écoutez, comme il n'y avait pas beaucoup d'antidotes à sa disposition, quand il en a eu marre, qu'il est allé en Belgique, dégoûté de la France, dégoûté des éditeurs, quoi qu'il en avait un qu'il aimait bien, qui s'appelait Poulet Malassi, qu'il appelait lui-même Coco Malperché. Il y avait de l'humour, Baudelaire, quand même. Oh, bon. Alors, il en avait un qui s'occupait beaucoup de lui, mais enfin, en gros, ben, il n'a pas eu de bol de son vivant en ce qui concerne les éditions, et puis il avait le cœur gros et tout. Il avait écrit, 10 ans avant, un poème qui est très instructif, magnifique, et par lequel nous allons terminer. Quand il n'y a plus rien à faire dans cette chienne de vie, où on est 90% des fois le cœur délabré, ulcéré et crucifié par le spleen, et que vraiment les moments d'exaltation se font rares, on ne pense plus qu'à une chose, c'est à la mort. Et il a écrit donc dans Les Fleurs du Mal ce long poème qui s'intitule Le Voyage. Le Voyage. Et qu'est-ce qu'on trouve au bout du voyage? On trouve ceci. Le voyage... Il faut que je lise quand même. Attendez. J'ai fini, hein. C'est promis, c'est juré. Le voyage, page 125. Alors, on y va. 125. Le poème est fort long et adressé à ce salopard de Maxime Ducamp. Bon. Le voyage. Bon. Alors, il parle des motivations sur des quatrains et des quatrains. Les gens adorent faire des voyages, etc. Et puis, au bout de deux pages de poésie, comme ça, il dit, mais qu'est-ce qu'on a vu, finalement, quand on est en voyage? On a vu des gens, des pays qui sont encore plus malheureux que nous. On a vu des femmes qui sont asservies. Ah, ah, pas si misogyne que ça, le type. Et puis, au bout de 200-300 vers, il écrit ceci. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage. Le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image. On se transporte toujours en voyage. Si on a le cafard, peut-être 4-5 jours, ça va nous changer les idées, mais après, on a le cafard dans la valise, hein, et puis la mésestime de soi et tout ce que vous voulez. Donc les voyages, ce n'est pas des vraies évasions, en fait. Voilà. Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste. part, s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps. Et on revient au thème du temps. Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur en voyage comme ailleurs, du sang que nous perdons croît et se fortifie. Et ça se termine ainsi. Et je vous signale que c'est l'ultime poème des Fleurs du Mal. Ça se termine par deux quatrains. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs, que tu connais, sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Vous pouvez applaudir. Je suis contente, mais contente. Hein.
Ben d'abord, merci. Merci Marie-Christine, merci beaucoup. Nous savons maintenant que nous relirons les Fleurs du Mal avec, et pas seulement, les Paradis artistiques.